Je poursuis mes découvertes cette année pour une première fois à notre chronique environnement, mais vous, vous la connaissez mieux que moi, probablement, puisqu'elle était présente dans les saisons précédentes. On est avec Caroline Collin, qui est responsable des communications au COBALI, hein, évidemment un organisme sans but lucratif qui travaille à la gestion intégrée de l'eau, notamment dans le bassin versant de la rivière du Lièvre. Bon, j'ai dit tout ça, mais j'ai même pas commencé par le principal. Bonjour Caroline.
Bonjour Patrick.
Ça me fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas chaud, mais humide. On va parler des milieux humides.
Oui, exact. En fait, cette semaine, c'est la Semaine nationale de l'arbre et des forêts. Donc, okay. Je voulais en profiter justement pour parler des milieux humides. Bon, là, tu vas sûrement te demander c'est quoi le lien dans tout ça?
C'est ça que mon visage, que les gens voient pas, c'est ça que mon visage voulait dire,
oui. Ah ah! Bien, en fait, c'est que certaines forêts, hein, ou en fait des parties de forêt, oui, peuvent être, dans le fond, des milieux humides. Okay. Puis, bon, sachant tous les services écologiques qui nous rendent ces milieux humides-là gratuitement, par exemple, pour atténuer les inondations printanières, bien, on a tout intérêt à mieux les identifier, mieux les reconnaître.
OK. Maintenant, c'est facile de se perdre dans tout ça. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple pour peut-être un peu séparer les milieux humides, les forêts? Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans quelle case?
Oui. Bien, dans le fond, hein, quand ça va être souvent le cas, en fait, qu'on va se mélanger là, entre milieux humides et forêts pour les marécages et les tourbières.
OK.
Parce que, par exemple, ben, si je te parle d'étangs ou de marais, ben, je pense que c'est plutôt clair là, pour la majorité des gens que ce sont des milieux humides. Bon, pour un étang, on a tous en tête des images d'eau peu profonde, de nénuphars, de barrages de castors aussi. Puis dans le cas d'un marais, ben on pense à peu près tous hein, aux fameuses quenouilles, puis aux grandes herbes aussi là, qu'on retrouve, qui ressemblent à du foin, en fait, là, qui se retrouvent en bordure de rivières ou des ruisseaux. Mais pour un marécage ou une tourbière, ben là, c'est moins évident.
Bon, évidemment, je l'ai dit d'entrée de jeu, nous, on se connaissait pas encore. Fait que ça, tu le sais pas, Caroline. Moi, les tourbières, je connais ça quand même bien. J'en ai visité quelques-unes.
Ben,
mais effectivement,
mieux.
Ça peut être mélangeant pour le monde.
Oui, puis en fait, ce mélange-là, c'est probablement, ça vient du fait qu'on voit pas toujours de l'eau, en fait, à la surface du sol, hein, dans ces cas-là. Par exemple, dans le cas d'un marécage, ben, on va retrouver plus de 25 % d'arbres ou d'arbustes. Puis en plus, l'été, ben, la surface du sol peut être complètement asséché.
Okay.
Mais si on regarde de plus près, ben on va assez vite trouver des traces de la présence d'eau. Par exemple, il y a des lignes qui vont apparaître, là, des lignes horizontales qui vont apparaître à la base du tronc des arbres. Ben dans le fond, c'est là où l'eau monte au printemps, à la fonte des neiges. Ou encore, ben le sol va être dénudé puis noir. Pour ce qui est des tourbières, ben il y en a certaines qui sont complètement boisées. Donc tu me dis que tu connaissais ça. Puis les arbres typiques qu'on va y retrouver, ben ça va être l'épinette noire ou encore le mélèze laricin. Mais pourtant, si on creuse en dessous de la mousse ou des herbes qui recouvrent le sol, ben on va voir en fait que le sol, il est bel et bien humide. Il va être alimenté en eau, soit par la pluie ou encore par la nappe phréatique, donc l'eau souterraine.
OK.
Puis plus que c'est pas nécessairement facile à la radio là, de bien imaginer tout ça, à moins qu'on connaisse ça à l'avance, j'inviterai les auditeurs à aller visionner sur notre site web nos toutes nouvelles vidéos qui ont justement pour but d'aider les gens à mieux reconnaître là, les différents types de milieux humides.
OK. Dans le concret, c'est au cobali.org. Donc, cobali.org. C'est effectivement un site qui est très bien fait. Tu nous as mentionné, Caroline, les services écologiques.
Oui.
Mais encore, que veux-tu dire par là?
Qu'est-ce que ça mange en hiver?
Oui.
Donc, dans le fond, c'est des fonctions, tout simplement, ou des rôles que jouent les milieux humides, naturellement, sans rien nous demander en retour. Hein? Pas de salaire, pas d'avantages sociaux, rien de ça.
Sont-ils fins?
Oui, exactement. puis, dans le fond, bien, on bénéficie de ça grandement, mais on ne le sait pas. Donc, je parlais tout à l'heure d'inondations. Bien, c'est justement un, entre autres, des services majeurs qui nous rendent. Dans le fond, les milieux humides, ils agissent un peu comme des éponges hein, qui absorbent puis qui stockent l'eau en période de crue le printemps ou lorsqu'il y a des grandes averses, là, des torrents. Et puis, ben, dans le fond, ça nous évite de se retrouver les deux pieds dans l'eau dans notre sous-sol. Hein?
Ça, on aime ça.
Ah oui, on aime ça, on aime ça. Dans le fond, il y a une équipe de chercheurs, là, entre autres, qui inclut le célèbre bassiste du groupe de musique Les Cowboys Fringants, le Jérôme Duprat.
Mais oui, ils ont une job en plus de faire de la très bonne musique.
Que oui, c'est un homme occupé, père de famille en plus et tout. Donc, cette équipe de chercheurs-là a chiffré à près de 50 millions de dollars par année les coûts évités dans le cas de la communauté urbaine de Québec.
Wow.
Des coûts évités là, qui découleraient des inondations. Tout ça grâce au milieu humide. Donc, okay. Mais ça, c'est sûr que c'est à condition de les laisser dans leur état naturel.
Ah oui, on commence par ça.
Donc, on les remblaye pas pour recouvrir tout ça d'asphalte ou de béton ou encore pour y construire des quartiers résidentiels. On les draine pas non plus pour y faire de l'agriculture, comme ça a été malheureusement beaucoup le cas là, dans les années 70.
C'est intéressant d'avoir des statistiques là-dessus quand même, parce que il y a bien des gens qui ont besoin de voir des statistiques pour comprendre un peu mieux. C'est toujours comme ça.
Exact.
Bon, évidemment, cette année, en 2020, il y a un sujet qui est sur toutes les lèvres. Pas besoin de vous dire de quoi on parle, mais le sujet probablement pour la décennie et pour le siècle, c'est les réchauffements climatiques puis l'état de notre belle planète également. J'imagine que les milieux humides, ça peut être utile pour essayer de combattre ce réchauffement-là.
Ben oui, puis particulièrement dans le cas des tourbières, c'est vraiment des alliés importantes en cette matière-là par rapport au changement climatique, parce qu'on sait maintenant qu'elles permettent de stocker ou de séquestrer du carbone, donc le fameux CO2, qui est un peu, qu'ils font dans le fond un peu comme le font les arbres. Bref, elles se trouvent à emprisonner naturellement une partie des émissions de gaz à effet de serre, là, les fameux GES, qui causent les changements climatiques. Puis chez nous, sur le territoire d'Antoine-Labelle, ben, on est plutôt gâté en termes de tourbières. Écoute, par exemple, tu connais peut-être l'immense tourbière des Caries qui est située à cheval là, sur le territoire de Saint-Anne-du-Lac et de Mont-Saint-Michel. Et elle fait 40 kilomètres carrés.
Tant que ça!
C'est vraiment immense.
OK. Perdez-vous pas, les amis.
En fait, dans tout le bassin versant de la rivière du Lièvre, parce que nous, on couvre tout ce territoire-là,
ouais, c'est très large.
Jusqu'à Masson-Angers, les tourbières représentent près de la moitié des milieux humides et sont suivies par les marécages à près de 30 %. Puis viennent ensuite les étangs et l'eau plus profonde à près de 20 %. Donc, les marais sur les territoires ne représentent même pas 1 %. Puis c'est intéressant de savoir qu'il y a presque autant de milieux humides que de lacs et de rivières dans le bassin versant. Dans le fond, 7 % contre 10 %.
Okay.
Alors, quand on dit dans le slogan de la MRC Antoine Labelle, je suis de lacs et de rivières, bien en fait, il faudrait peut-être ajouter et de milieux humides aussi.
Ouais, c'est une question de rythmique. C'est un peu long, comme,
ouais,
mais c'est vrai, absolument. Donc, évidemment, ben là maintenant, je pense que tu es une bonne personne pour essayer de nous expliquer ça un peu. Comment on peut faire pour essayer de les protéger, ces endroits-là?
Bien, en fait, avec la loi au Québec sur la conservation des milieux humides et hydriques, dans ce cas-ci, donc les lacs et les rivières, qui existe depuis 2017, bien, dans le fond, l'idée, c'est justement de s'assurer qu'on n'en perde plus des milieux humides.
Oui.
Alors, dans ce contexte-là, bien, le COBALI, en tant qu'organisme de bassin versant, doit déterminer, en concertation avec les acteurs du milieu, des objectifs généraux de conservation des milieux humides et hydriques à l'échelle des bassins versants. Donc, on est actuellement en train de travailler là-dessus.
Okay.
Puis, il y a les MRC aussi qui ont une démarche similaire à faire, en parallèle puis en collaboration avec les organismes de bassins versants. Mais elles le font, les MRC, à l'échelle de leur propre territoire, évidemment.
Évidemment.
Et précisément pour ce qui est des terrains privés. Donc, on ne parle pas de la conservation des milieux humides sur les terres de la couronne, hein, comme on les appelle parfois.
Oui.
C'est vraiment sur les terrains privés. De monsieur, madame, tout le monde, bref. On parle alors d'un plan régional des milieux humides et hydriques. Je m'excuse, là, c'est un peu redondant, mais c'est ces termes-là qui sont utilisés. Donc, juste pour que les gens comprennent bien s'ils voient passer ça dans les médias. Donc, les MRC vont alors identifier des milieux humides précis, dans le fond, spécifiques à protéger dans ce plan-là. Puis, dans le fond, en terminant, hein, faut se rappeler que dès qu'on parle d'un milieu humide, faut se renseigner comme il faut avant de faire des travaux dans ces milieux-là, parce que il y a des restrictions légales, par exemple, par rapport au remblai ou par rapport au drainage. Bref, on peut pas y faire tout ce qu'on y veut. Puis comme c'est le cas d'ailleurs, hein, quand on parle de lacs, de rivières, de bandes riveraines et compagnie, qu'on connaît peut-être un peu plus
ben
déjà.
Oui.
Donc, puis la municipalité, votre municipalité là, devrait pouvoir vous renseigner, par exemple, à ce niveau-là. Puis c'est sûr que le Kobali est aussi une source d'information à cet égard-là.
Ben oui, absolument. Nous étions avec Caroline Collin et on va la recevoir à plusieurs reprises cette année également. Donc, on n'a pas fini de démystifier plein de trucs ensemble, d'essayer d'y voir plus clair. Mais effectivement, vous pouvez aller au kobali.org pour avoir un peu plus d'informations. C'est du bon monde en plus. Ils sont joignables. Et merci beaucoup. Nous étions avec Caroline Collin, qui est responsable des communications pour le Kobali. Merci, Caroline.
Merci à toi.